I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 104 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de UFC Noche, spécialement dédié au Mexique pour le jour de l'indépendance mexicain. Bon, écoutez, carte qui, sur le papier, n'était pas forcément la plus attrayante, on va dire, mais... Évidemment, il y a quand même ce main event pour une ceinture. Donc, on n'est pas sur un pay-per-view. On est sur un fight night avec un title shot. Et ça s'est fini en queue de poisson. Hein. J'ai envie de dire vraiment, c'est consternant ces problèmes de juge quand même récemment au UFC. Et celui-là, c'est quand même pour un gros morceau. Hein. On est sur la revanche entre Valentina et Alexa Grasso. On va en reparler un peu dans l'analyse de ce combat. Sinon, j'ai vu quelques combats sur les prélims. J'en attendais quelques-uns aussi. Je vais vous en parler. Voilà, grossièrement, au final, la carte... pas mal mais pas folle parce que vraiment ce gros problème à la fin et puis quand même aussi quelques combats un peu décevants hein, notamment ce Kevin Holland de Jack Della Maddalena. Mais rentrons dans le vif du sujet, j'ai envie de vous parler de Joséphine Knutsson, une Suédoise qui a fait pas mal de Muay Thai et de kickboxing et qui récemment s'était vraiment bien battue dans les Contender Series, mais qui faisait partie, régulièrement c'est arrivé cette saison, un des rares combattants qui n'a pas eu de contrat malgré le fait qu'il ait gagné. Bon, pour elle, c'était son finish, mais très talentueuse dans son MMA, elle qui poussait toujours sur le striking, etc. Elle avait clairement le niveau, surtout chez les flyweight, d'aller chercher une place parce qu'on a clairement besoin de 109 dans cette catégorie. Et puis au final, on lui a donné un contrat parce que il y a une combattante qui a step out de ce combat-là contre Marnik. Donc elle a pu step in et puis au final elle a récupéré son contrat et puis elle mérite son contrat. Elle a encore vraiment bien performé pour son premier combat. Dans le premier round, elle domine le clinch, elle domine les échanges aussi, elle a une bonne défense de single leg. Elle arrive à faire du damage aussi sur sa première défense de single leg en gardant la tête basse de son adversaire, donc ça c'était bien vu aussi. Elle passe un beau takedown où elle se retrouve dans la demi-garde, Mann n'est pas dans une bonne position. Et même si Joséphine a du mal à posturer, je trouve, dans le premier round, quand elle est au-dessus de son adversaire pour placer ses frappes, hein, trouver une bonne posture, c'est important pour aller chercher du ground and pound pour mettre de la puissance dans ses coups. Mais même après avoir récupéré le side control, mais même le full mount, elle avait un peu de mal, je trouve. Mais encore une fois, ça, c'est des détails. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a fait sa transition en MMA. Je pense qu'elle a quand même retenu de ce combat. Dans le deuxième round, elle pousse contre la grille. Elle kick aussi beaucoup. Je trouve que ses middle kicks sont très bons. Bon, elle venant, ayant un background solide en Muay Thai, envoyer des bons kicks, c'est quand même le minimum. Mais bon, c'est toujours plaisant à voir. Et puis c'est bien placé, c'est bien amené, c'est ça qui est important. Mann doit lutter, hein, elle n'a pas le choix pour aligner le stand-up de la Suédoise. Quand on est reparti sur du stand-up, les genoux, je trouve aussi, de Joséphine font mal. Mann se fait vraiment punir hein, contre la grille. Elle survit, elle s'accroche contre Knutsson, mais c'est Knutsson qui passera le plus de coudes aussi dans le clinch. Ça commence à faire mal et Mann est trop passive en gros. Elle attend un peu de se faire allumer contre la grille. Et dans le troisième round, elle est vraiment directement poussé contre la grille dès le début. Belles entrées sorties en 1-2-3 pardon, de la part de Knutsson, ça c'est vraiment bien vu aussi. Mann est épuisé, se fait amener au sol contre la grille et Knutsson continue avec des strikes quoi. Elle veut finir fort et elle veut faire un statement et puis elle fait une belle entrée en tout cas dans le UFC après les Contender Series. Elle était passée par Road to UFC aussi, je veux dire, elle a vraiment cravaché pour mériter sa place et c'est plaisant de l'avoir débuté sur une belle performance comme ça. Joséphine Knutsson, retenez son nom, une flyweight qui tient la route. En parlant de performance solide, j'ai découvert Charlie Campbell, un lightweight qui a Putain, Alex Reyes, franchement, c'était vraiment gros, solid round. Son MMA est vraiment solide, ses déplacements sont bons, sa boxe en ligne est très simple, certes, mais ça casse tout. Il a des bonnes défenses de takedown contre la drague, il est patient pour finir, il a une bonne utilisation de son allonge et il finit brutalement. Je le connaissais absolument pas, Charlie Campbell. Il est à 8-2 maintenant en pro. Franchement, c'est cool pour un lightweight. J'ai trouvé vraiment pas mal. Donc, j'ai hâte de le revoir. Écoutez, c'est une belle découverte que ce Charlie Campbell. Et le combat suivant m'intéressait beaucoup parce que, de une, on était dans l'entrée du classement des flyweight chez les filles. Et puis, j'aime bien cette division en ce moment. Et aussi, il y a une combattante qui m'intéresse, qui vient de Niagara Top Team, là où s'entraîne, entre autres aussi Mike Malott, c'est Yasmin Yassada-Vaches. Je sais, c'est très compliqué à dire comme nom, et au final, elle l'a dit elle-même avec le schmo, donc au moins maintenant, je l'ai prononcé. Mais j'imagine que tout le monde va continuer à l'écorcher, mais apparemment, elle s'en fout, et j'aime bien ses dernières performances. Mais Tracy Cortez aussi a eu de la difficulté sur la dernière année, on va dire les 18 derniers mois. Son dernier combat datant de mai 2022, mais ne pas oublier que Tracy Cortez est invaincue depuis 10 fights. Donc, elle a même battu Blanchfield en 2019. C'était sûrement pas la même combattante. Hein, et c'était une split decision, mais quand même, elle a battu Stephanie Hager. Elle a battu Melissa Gatto. Même si c'est pas les plus gros noms, les trois que je viens citer sont quand même des adversaires vraiment legit et compliqués à fighter. Et là, elle prend la victoire face à Jasmine. C'était compliqué pour la Canadienne. J'ai trouvé qu'elle était plus ou moins en difficulté sur les trois rounds quand même. Parce que même si c'était quand même compétitif, même s'il y a eu des échanges avec du back and forth entre les deux, c'est quand même Cortez qui a utilisé vraiment son allonge au mieux. Alors qu'au final, c'est Jasmine qui en a le plus. Cortez est plus rapide dans la poche. Elle utilise bien son allonge. Elle sort plus vite. Et j'ai trouvé Jasmine vraiment trop... pas feignante, mais trop fixe. Pas assez rapide, pas assez de déplacement. Elle traînait trop dans la poche derrière, quoi. Elle avançait, elle reculait pas. Ça, je trouve que c'est vraiment un problème chez elle qu'elle doit absolument corriger. Cortez a réussi à lancer quelques bons coups. Hein. Celle qui a mis le plus de damage, elle passe une grosse droite directe dans le premier. Jasmine traîne trop. Elle se fait toucher trop souvent. Solid round de Cortez pour le premier. Dans le deuxième, Jasmine essaye d'enclencher le clinch sur les conseils de son coin. Ça marche pas contre Cortez qui direct veut le casser. Elle donne pas son coup. Elle donne pas dehors de underhook, c'est compliqué de rentrer dans le clinch avec elle. Et les entrées sorties de Cortez font toujours aussi mal. Jasmine s'adapte, hein, elle aime bien un takedown, elle amène Cortez au sol, elle travaille fort pour contrôler la position. Pardon. Malgré tout, Jasmine ne passe pas assez de damage, je trouve, au-dessus de son adversaire. Et dans le troisième, Jasmine va pousser contre la grille. Cortez défend tant bien que mal. On se retrouve au milieu. Cortez connecte et fait mal, clairement. C'est contre la grille que Jasmine gagne et c'est au milieu. Là où le combat se déroule le plus, c'est Cortez, clairement, qui prend l'avantage. Elle connecte beaucoup. Jasmine avance et enclenche le clinch, elle a raison. Ça devient moche, mais Jasmine avance à l'instinct. J'ai un peu l'impression où vraiment elle va chercher la victoire, elle a raison, et tant mieux pour elle, et tout bien à elle, parce que vraiment, savoir que tu perds, être poussé pour aller chercher, plutôt que d'essayer de continuer de faire la même chose en sachant que ça va pas marcher pour aller perdre à la décision, c'est con. Donc elle a raison de pousser, elle connectera, mais c'est toujours Cortez qui est plus dangereuse. Meilleure boxe de Cortez, meilleur dommage, meilleure combattante. Dur, mais clairement, là, sur ce combat-là, ça se voit. Et Cortez est legit, et ça fait encore une belle victoire et un bel ajout sur son CV que de battre Jasmine, qui est entrée très brièvement dans le classement des flyweight, s'est fait détrôner vite fait. Elle est restée quelques semaines, peut-être, et c'était terminé. Elle a montré ses limites, mais c'est comme je vous le dis, ça devient compétitif chez les flyweight, ça devient dur de rentrer dans le top 15. Bravo à Tracy Cortez, belle victoire. Ah oui, j'ai vu le deuxième round de Roman Kopylov aussi. Oh là 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 là, ce power dans les 1-2, hein, cette défense de takedown, les head kicks, les feintes, comment il a massacré Josh Friend dans le deuxième, c'était vraiment impressionnant. Après, le problème avec Kopylov, c'est que à chaque fois, je me hype faussement avec lui parce que je regarde si ben, c'est quoi son record, c'est quoi ses fiches, etc. Et j'ai pas l'impression qu'il gagne contre les meilleurs, quoi. Là, bon, Josh Friend, clairement, il essayait de continuer, il retournait à la guerre même quand il se faisait massacrer. Alors, tout à son honneur. Mais par contre, j'aimerais bien revoir Kopylov, mais plus dans un truc plus compétitif, un combattant qui serait peut-être un peu plus à sa hauteur. Mais waouh, les combis bas-haut avec ses mains, hein, pour changer les levels, finir avec un KO à l'estomac, juste qui suivait juste, un body kick aussi qui arrivait à vraiment faire mal, hein, Josh Fram. C'était violent et c'était beau. Waouh, round vraiment, vraiment solide de la part de Kopylov, c'était impressionnant. Sinon, j'ai pas vu le combat de Kyle Nelson face à Fernando Padilla. Kyle Nelson a gagné à la décision. Et puis le Canadien, au final, est sur une bonne lancée, j'ai l'impression. Je crois qu'il a gagné. Ouais, bah en fait, il a gagné son dernier combat contre Blake Builder, c'est pas mal. Il avait fait un draw contre Choi Doo-ho, The Korean Wonder Boy. Et là, il a gagné contre Fernando Padilla. Donc, ouais, deux victoires de suite pour Ken Nelson. Ça, c'est une bonne relance. C'est bon pour lui. Et derrière, par contre, ouais, belle soumission de Daniel Zellhuber face à Christos Giagos. Donc, ouais, c'était vraiment beau dans le deuxième. Golden Boy a tout cassé, 24 ans. 14 victoires, une défaite. C'est quand même pas mal, hein, pour le gars, pour le Mexicain. Ça, c'est cool parce qu'il y a eu Team Mexico aussi qui en a gagné pas mal ce soir. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est récent et très, très récent. Que récemment, pardon, c'est très fréquent, hein, d'avoir des beaux résultats pour les athlètes locaux, hein. On s'en rappelle à l'UFC Paris, mais bon, il n'y avait pas forcément la plus grande compétition en face non plus. Voilà. À Londres, c'est arrivé une fois aussi. À Paris, la fois d'avant, c'est arrivé aussi. Et là, on n'est pas au Mexique pour l'indépendance. C'est génial. Mais bon, c'est soirée Mexique pareil. Donc, on va retenir ce côté-là. Et en parlant de soirée Mexique, pardon, le Mexicain-Américain Bantamweight Phénomène, plus jeune fighter à rentrer dans le UFC, Raul Rosas Jr. face à Terence Mitchell. Raul Rosas Jr. qui s'était fait, genre vraiment, annihilé face à Christian Rodriguez, qui est un autre bantamweight très 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 prometteur. Je l'adore. Il avait montré tellement d'intelligence et de niveau face à Raul Rosas Jr., qui lui insistait beaucoup sur son grappling, qui est évidemment sa grande force. Et ben là, on n'a pas eu de grappling, mais on a eu un combat. Très court, certes, mais un combat quand même. Beaucoup de brawl, combat rapide, ça brûlait, ça swingait, puis au final, c'est une gauche qui a éteint, enfin, qui a connecté sur Terence Mitchell, s'est retrouvé au sol, et Rosas Jr., avec son aise au sol, pardon, son aisance, a bah, détruit son adversaire sur le ground and pound poursuivi, hein, l'arbitre a dû arrêter. Quand Terence Mitchell s'est retrouvé en tortue et que Raul Rosas Jr. genre envoyait des mines, voilà, c'était terminé, position limite fatale et combat fatal, voilà. Pour faire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une rime à chier et c'est gratuit. Est-ce que j'ai appris quelque chose de ce combat sur le combattant? Non, rien du tout. Mais c'était important, je pense, pour sa carrière de gagner, surtout pour lui qui est très attaché à ses racines mexicaines, en ce jour-là, pour cet événement, et de cette façon-là, c'est un statement qui fera du bruit pour Rosas Junior. Et on sait très bien qu'il a du talent, qu'il est pétri de talent, et qu'il est très jeune, il a encore beaucoup de choses à peaufiner, évidemment. Mais d'être à ce niveau-là, à cet âge-là, c'est quand même... Enfin voilà, c'est il y en aura pas, on n'en aura pas souvent des prospects comme ça. Lui, écoutez, faut voir la suite parce que comme je vous le dis, c'est pas forcément la plus grosse compétition en face. Je vous avoue, je le connais même pas, mais c'est surtout qu'il n'y a pas eu vraiment de combat, quoi. On peut pas juger sur une minute, quoi. Mais grosse victoire, gros statement. Et puis, ce qui est bien, c'est que vu que ça durait pas longtemps, je pense qu'il va vouloir combattre assez vite aussi. Il n'a pas vraiment pris de gros damage. Enfin, voilà, c'est parfait au final pour Raul Rosa Junior, je veux dire. C'était spectaculaire devant ses fans. Pour ce soir, beaucoup de Mexicains dans l'audience, évidemment. Bravo, bravo à Raul Rosa Junior. Bon, le combat qui m'a le plus déçu dans la cage, on va dire, et pas sur le résultat ou alors dans la polémique, c'est ce Kevin Holland face à GDM Jack Della Maladena. Je veux dire, il y avait énormément de niveaux. Hein. Il y avait de la game derrière. Il y avait de la discipline, même s'il y avait des choses un peu fofolles, mais il y avait quand même une tactique mise en place des deux côtés pour gagner ce combat, etc. Et puis il y avait de l'échange entre les deux, et je veux dire, techniquement, c'était pas mal, mais peut-être je me suis vendu une guerre qui n'aurait jamais forcément eu lieu, hein, mais sur le papier, tu te dis GDM face à Kevin Holland, Trailblazer. Mais ça doit être le feu, quoi, un festival. Et c'était plus un quelque part entre le pétard mouillé et puis le feu avec du bois humide, quoi. Tu sais, ça c'est pas très, très satisfaisant, j'ai envie de dire. Il y a eu beaucoup de gestion de distance de la part de Kevin, et puis moi, je pensais qu'il aurait pu gagner le combat avec ça, qu'il aurait pu contrôler le fight avec ça, et c'est arrivé, hein, dans plusieurs moments du combat, et même, je pense, dans la majorité des trois rounds, peut-être. Quand il est poussé contre la grille et qu'on rentrait dans la poche, bon, là, c'est sûr, c'était un peu chaud pour Kevin Holland. On sait que GDM aime beaucoup être dans la poche pour aller boxer, et contre la grille, d'autant plus pour aller chercher plus de violence. D'ailleurs, le coin de Kevin Holland lui dit « Sors du clinch, bordel », parce que forcément, c'est violent. Et dans le deuxième, je trouve qu'il y a du volume quand même, hein, qui va dans les deux sens. Comme je vous l'ai dit, il y avait quand même du combat, il y avait du MMA, mais il n'y avait pas cette explosivité, enfin ce feu d'artifice que j'attendais. Donc, quand même du volume, mais pas forcément le feu, hein, j'ai envie de dire. Kevin sort vite, mais sa défense, même si elle est peu orthodoxe, elle est quand même efficace, ça marche. Il y a quand même pas mal de variété dans le striking de Kevin, mais encore une fois, j'ai l'impression d'assister plus à un sparring compétitif. Les sidekicks, par contre, de Kevin Holland pour les voir éloigner JDM marchent bien, je trouve. Et je trouve aussi que Maddalena aurait un peu plus lâcher ses combis, parce que dès qu'il commence à faire des hauts bas, là, dans la poche, ça passe vraiment bien. Et Kevin remonte sa garde pour aller chercher le téléphone et protéger sa mâchoire. Mais quand même, tu sais, une bonne patate dans le gant, là, avec les petits gants, ça passe bien quand même, quoi. Et dans le troisième, on est toujours dans le même round, quoi. Pour GDM aussi, c'est pas la même dynamique, mais je pense qu'il passe plus de power, en fait, sur le combat au complet. C'est peut-être ça qui lui a donné le combat, d'ailleurs. Les coups connectent plus. J'ai l'impression que ça fait plus mal, plus peur, peut-être. Beaucoup de touche-touche, et comme je vous dis, dans mes notes, c'est un peu sentiment un peu plus d'un sparring que d'un fight. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti, et puis... On ne l'aura pas à nouveau, hein, ce combat-là, donc c'était la seule chance d'avoir vraiment ce feu d'artifice qui n'en était pas un, je trouve, malheureusement. On peut passer au main event. Valentina Boulette Shevchenko face à Alexa Grasso, la championne des flyweight. Le deuxième combat, la revanche entre les deux. Avant de passer au scandale, j'ai envie de vous parler du combat, hein, et ce combat était quand même très très bien. Donc j'ai pas envie d'effacer la performance des deux fighters pour la connerie d'un juge. C'était un très beau combat, un combat de deux championnes, j'ai envie de vous dire. Clairement, Shevchenko est venue bien préparée, en mode vintage Shevchenko, en mode championne, et Grasso quelque part aussi. Vraiment 5 rounds en plus de régal technique et de régal de travail des deux fighters. Premier round, les switch kicks au corps de Valentina sont déjà du bon travail, ça fait du mal. Un échange au clinch est vite cassé. Je trouve que les deux fighters attaquent vraiment simplement avec des entrées sorties en ligne, des 1-2, mais les deux sont très propres là-dessus. Évidemment, comme je vous dis, du travail de champ, c'est le minimum là-dessus. Vraiment pas de fainéantise dans les déplacements, c'est très discipliné. Shevchenko passe un beau coup dans sortie de clinch. Et ce qui arrivera à plusieurs reprises, d'ailleurs dans ce combat, c'est que Valentina est très très bonne dans le double underhook. Elle va aller chercher les deux dessous de bras pour pouvoir avoir vraiment de la force en lutte et avoir plus de possibilités de pouvoir te renverser. Grasso est resté vraiment trop bloqué là-dedans, a trop attendu au final et elle se fait mettre au sol, elle aurait dû casser le clinch plus tôt. Valentina finit par prendre le dos, mais Alexa, Grasso se relève. Moment incroyable déjà je trouve parce que je connaissais de toute façon l'abnégation de Alexa Grasso, on sait qu'elle a ce tempérament vraiment de dur à cuire quoi clairement et puis que elle est douée dans beaucoup de bases techniques et ça lui permet justement d'atteindre ce niveau et d'avoir eu cette ceinture de championne. Le combat s'est lancé à ce moment-là, je trouve. C'était le premier moment vraiment de passer de championne de Valentina et puis un moment aussi de championne d'Alexa Grasso, de se relever derrière ça. Le combat clairement est lancé dans cette fin de premier round. Round 2, Alexa casse la lutte et sort. Ça, c'est le premier bon point aussi. Je trouve qu'Alexa ne veut pas rester dans le clinch. C'est un peu la bataille au final du stand-up face au grappling. Enfin, on va dire... Ouais, parce que Shevchenko veut l'amener au sol régulièrement pour pouvoir garder la position, faire du damage et puis éventuellement aller chercher une soumission. C'est ce qu'elle veut faire le long du combat, c'est la technique. Et ça marche pour elle, ça aura marché pendant le combat. Tandis que Alexa Grasso était plus à l'aise, du moins pendant plusieurs rounds, sur le stand-up. Et ça, c'est le coach de Valentina le disait très bien aussi. Et justement, Alexa arrive à dropper Valentina sur une droite pleine poire hein, pendant que Valentina est dans la zone de Alexa, là où il y a du danger. Valentina se relève direct, ça part contre la grille. Alexa Grasso la défonce vraiment hein, à ce moment-là. Elle met beaucoup de power dans ses coups contre la grille et des coudes. Valentina doit absolument sortir de là, elle est dans la merde. Mais bon, derrière, encore une fois, moment de champion de la part de Valentina. Elle passe le double leg, super beau timing. Après une situation vraiment difficile pour elle comme ça d'avoir vraiment l'instinct et la réflexion vraiment c'était très smart de la part de Valentina de passer ce takedown et le timing tout était parfait. Alexa Grasso par contre est pas vraiment en danger, elle reste à l'aise dans son full guard. Valentina se relève, elle repasse dans le full guard, elle enclenche un petit peu de ground and pound. Là on est dans la difficulté, on commence à rentrer dans la difficulté à scorer peut-être. Round 3, Valentina passe encore une fois un super takedown, le timing est parfait. J'insiste directement, je passe au round 3 direct parce que ce timing de takedown aura été vraiment la marque de la championne de Valentina aussi. C'est un des éléments, ce n'est pas toute sa marque, mais c'est un des éléments et ça, elle le fait super bien. Ce que Alexa fait très bien aussi, c'est se relever. Et quand elle se relève, malheureusement, elle finit en tortue, elle montre trop son cou et là, Valentina, instinctueuse de la championne, encore une fois, je le dis, j'insiste, saute sur une guillotine, arrive à la renverser par un mounting guillotine, mais encore une fois Alexa aussi, moment de champion, arrive à toffer cette guillotine, elle se fait prendre le dos, il reste deux minutes, le public commence à pousser, Alexa survit, rang de championne de Shevchenko, voilà, clairement à 200%, Alexa a survi, elle a réussi à défendre, mais là, on rentre dans les championship rounds pour deux championnes, j'insiste. Le corner d'Alexa lui demande plus de boxe, plus d'agressivité. Et là, le jab de Valentina s'enclenche et commence à faire vraiment mal. Elle stoppe beaucoup d'avancées d'Alexa Grasso. Par contre, Shevchenko tente un takedown et là, enfin, on a un super sprawl de la part d'Alexa. Elle passe un body lock et des genoux. Bon, apparemment, il y en a un ou deux qui sont passés au-dessus de la tête, hein, au niveau de limite derrière la tête, ce qui serait peut-être un peu dangereux. Valentina, un peu contestée. Je peux le comprendre. On a une brève séquence au sol et on se relève. Et on a toujours Alexa qui essaye de partir à la chasse. Je dis qui essaye parce que le jab de boulette bloque toutes les avancées, encore une fois, de Grasso. Et double underhook de Valentina, ça je vous l'ai dit aussi, c'est il y a eu un problème je pense pour Alexa Grasso de défense, elle se laissait trop prendre les dessous de bras, c'est dangereux pour la lutte, surtout avec Valentina, elle adore être dans cette position, ne pas lui donner ce maudit double underhook. Takedown qui passe, Grasso se relève encore une fois. Round 5, beaux échanges dans la poche en anglaise. Les deux ont faim, hein. On est dans le cinquième round. Alexa saigne de la pommette. Toujours ce jab de boulette. Hein. Valentina contrôle le quatrième et le cinquième. Elle contrôle vraiment, elle est en mode Championship rounds pour la championne. Elle gère, elle est à l'aise, ses déplacements sont plus vifs, sont toujours vifs, mais il y aura ce moment qui aurait pu lui coûter la ceinture. Je dis aurait pu parce qu'au final elle l'a pas eu, mais je vais m'expliquer à la fin. On a un takedown foireux de Valentina. Elle se fait prendre le dos et elle mange beaucoup de ground and pound dans le process. Alexa, genre, lui envoie des bombes pendant qu'elle est dans la tortue. Elle tentera de fuir. Elle tentera le tout pour le rear naked choke. Hein. Valentina, genre, est vraiment... Elle défend. Elle défend bien les mains. Elle arrive à passer les coups de son adversaire au-dessus de sa tête. Elle arrive à défendre. Mais elle pourrait... Peut-être perdre le round parce qu'il y aurait eu plus de damage, mais il y a eu ce juge, Mike Bell, lui qui a donné le cinquième round 10-8 pour Alexa Grasso. Alors ça fait aucun sens. Alors 19, peut-être, mais 18, ça veut dire que l'autre n'a rien fait en face. Valentina, elle a gagné le round jusqu'à ce qu'elle foire son takedown. Donc, elle n'a pas rien fait, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Genre, et s'il avait mis 19, comme s'il voulait mettre Alexa Grasso, il l'a fait, mais pas forcément 18, man, quoi. S'il la mettait 19, ben Valentina restait récupérait sa ceinture, pardon. C'est vraiment genre un craquage de juge sur un 18 au lieu d'un 19 qui a fait perdre la ceinture à Valentina. C'est à chier quand même, quoi, de genre sur un combat pour la ceinture, d'avoir un niveau d'incompétence. Moi, j'ai un niveau d'intolérance pour ça, clairement. Mais d'avoir un niveau d'incompétence pour pouvoir scorer ce round-là 18, quoi, c'est cave. Putain, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Forcément, Valentina n'était pas contente. Elle disait « Ouais, mais bon, c'est Mexican Independence Day. Genre, les juges ont voulu favoriser les Mexicains. » Ouais, bon, tu sais, c'est pas forcément la meilleure chose à dire, mais alors je comprends à 200% sa frustration parce que elle pense qu'elle a gagné. Et puis, moi, je pense qu'elle gagnait. Je pense qu'elle gagnait genre 3 rounds à 2, quelque chose comme ça. Ouais, je la voyais gagner. Maintenant, est-ce que c'est un scandale? Oui, en fait, quoi, je sais pas. Non, il y a rien de positif à l'issue de ce jugement, là. Genre, qu'on soit pour Grasso, là, c'est à chier pour le sport, quoi. Faut pas relativiser. Ouais, c'est cool pour le Mexique, on a toujours Grasso champion et tout. Oui, je suis content, mais de cette façon-là, c'est pas bien, c'est pas bon. Il y a rien de bon pour le sport à avoir, genre, des foirages pareils, quoi. C'est le problème. À côté de ça, on a appris beaucoup dans ce combat, c'est que Valentina peut revenir en corrigeant des erreurs. Elle arrive avec un game plan, c'est mieux gérer la distance, pas rester trop dans le danger. Encore une fois, ce takedown dans un monde différent, hein, Grasso l'a fini, c'est possible. Mais voilà, ce combat, cette domination dans le clinch, classique Valentina, le double underhook from hell qui casse tout, classique Valentina. Elle a fait du 2.0 avec du 2.0 déjà. Genre, elle a pris ses meilleurs éléments et elle a corrigé les défauts qui lui font perdre le premier combat. Et ça lui donne normalement la victoire, mais elle l'a pas eu et ça fait chier pour elle, quoi. Ça, je le comprends. Et en plus, bon, forcément, Grasso sera pas forcément pressé de se rebattre contre elle direct, hein, parce que au final, elle a accepté le rematch. Et puis, il me semble que ça a été fait assez vite. Je suis en train de regarder live. Valentina Shevchenko, mars 2023. Valentina Shevchenko, septembre. Je veux dire, 6 mois, quoi. C'est pas si pire. Franchement, c'est cool de la part au final de Grasso, quoi. Elle a été correcte à faire ça parce que. Ils avaient fait 4 rounds au complet dans le premier quand même, quoi. Une belle guerre aussi, et puis là on se retrouve avec 5 rounds. Donc là, au final, on se retrouve sur un draw. Voilà. Un juge qui donne 28-27, un juge qui donne 28-27, et un juge qui donne 27-27. Et j'étais là, comment tu peux avoir 27-27? Et je suis, ah bah, j'avais même pas imaginé qu'un juge puisse dire 18, quoi. Et merci Mike Bell. Mike Taco Bell, t'es une pine d'huître, t'es un burrito, man, tu sers à rien, franchement, t'es nul. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous remercie encore une fois de cette écoute. J'ai un petit message à faire passer. Si vous êtes de la région de Montréal, le 30 septembre, il y a un gala de kickboxing K1 Fight Time Championship 2. Québec versus Ontario, plus de 10 combats, 2 combats pour la ceinture. Beaucoup de classes différentes, beaucoup d'écoles, des écoles d'Ontario, des écoles du Québec. Et je serai au commentaire pour le pay-per-view. Car oui, il y aura beaucoup de monde sur place, mais il y aura aussi un pay-per-view pour les gens qui veulent regarder ça chez eux s'ils ne peuvent pas s'y rendre. Ce sera ma première expérience, je suis fucking excité. Et puis vous connaissez mon amour pour le pied-point, hein, j'en parle régulièrement, notamment par l'intermédiaire des combats de One Championship. Abonnez-vous sur partout, hein, comme je dis. Voilà, hein, ça ne donne pas du tout envie, mais vous faites ce que vous voulez à la fin. Je vous aime pareil. Bye les kids, ciao. At the end of the day, it is what it is.